Et vous voulez comprendre?
Ah, oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions me semblent. Martin Carly, bonjour.
Salut Mathieu.
Martin, tout d'abord, un nouveau traitement contre l'acouphène.
Oui, et ça, ça risque de faire plaisir à bien du monde, parce que l'acouphène, ceux qui en souffrent très sévèrement peuvent être carrément inaptes à faire quoi que ce soit.
Là. Fou, là.
Absolument, il y en a. On estime que 10% de ceux qui souffrent d'acouphène ont des symptômes tellement sévères qu'ils ne peuvent, par exemple, même pas travailler. Là. Leur qualité de vie est ruinée, ou presque. Et ça touche beaucoup de gens. Hein. On estime qu'aux États-Unis, ce sont quelques millions de personnes qui ont un acouphène à un degré variable, bien entendu. Là. Mais comme je vous disais, pour 10% de ces personnes-là, c'est carrément insupportable. Pour définir ce que c'est pour tout le monde, au cas où, on parle ici de bruits fantômes. Donc, c'est comme si on entend des bruits qui n'existent pas en réalité, mais notre cerveau les perçoit quand même, comme ces sons fantômes, si on veut. Donc, des bruits de bourdonnement, de cliquetis, des bruits de toutes sortes, finalement. Mm-hmm. Et ces bruits-là viennent...
Des fois, ça peut être un scellement. Là,
qui... Exactement. Exactement ça. Alors là, jusqu'à maintenant, on avait certaines approches, des approches plus invasives que d'autres, où on va carrément aller stimuler des nerfs. Mais ici, on a une découverte qui permettrait de réduire de façon importante ces bruits fantômes-là de façon non-invasive en stimulant l'individu de deux manières à la fois. Donc, en stimulant deux sens. La première façon, c'est de carrément stimuler des récepteurs sensibles au toucher au niveau de la peau. Donc, on parle de la peau du cou ou de la joue. Alors, Mathieu, s'il te plaît.
Il faut spécifier à quel endroit.
Oui, exactement. Les gens à la maison ne se doutent pas à quel point je suis concentré présentement. Et en même temps, on fait aussi une stimulation électrique de certains nerfs. Et on doit aussi en même temps stimuler l'appareil auditif de la personne. Donc, le simple fait d'essayer d'envoyer des bruits à intervalles réguliers, ça, c'est une technique qui a déjà été utilisée pour essayer de traiter l'acouphène, mais qui donne pas les résultats escomptés nécessairement. Donc, c'est pas uniquement de façon auditive qu'on pourrait régler le problème. Il semble ici qu'on peut reprogrammer certains neurones de notre cerveau en stimulant de façon parfaitement synchronisée, là, donc vraiment en alternance et selon un timing, excuse-moi l'anglicisme, mais qui doit être parfaitement ajusté, deux sens différents pour réussir à ce moment-là à combattre ou à redémarrer ou à réaligner certains neurones de notre cerveau. Pourquoi? Ben, il faut savoir que l'acouphène, essentiellement, origine d'une région au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, ça, c'est la partie du système nerveux qui est entre notre crâne et notre colonne vertébrale. Donc, c'est essentiellement au niveau de notre cou. Donc, la partie de notre colonne vertébrale, au niveau du cou, là, abrite le tronc cérébral. C'est là qu'on a nos fonctions autonomes, comme la respiration, battement cardiaque, et ainsi de suite. Donc, dans le tronc cérébral, il y a une région à cet endroit-là qu'on appelle le noyau cochléaire dorsal, dans laquelle on retrouve certaines cellules qui sont des neurones fusiformes, donc certains neurones spécialisés, qui vont, lorsque quelqu'un a de l'acouphène, se synchroniser et envoyer un signal à d'autres parties du cerveau qui va engendrer la perception de ces bruits fantômes-là. Donc, c'est carrément...
Donc, c'est pas une défectuosité dans l'oreille, carrément.
C'est vraiment pas dans l'oreille. C'est carrément au niveau du système nerveux, carrément. Le problème, c'est que c'est... ces acouphènes-là surviennent suite à un trauma qui peut être un bruit assourdissant, par exemple, être à côté d'une explosion ou quelque chose comme ça, ou un traumatisme au niveau de la tête ou du cou. Donc, l'acouphène va survenir dans ces cas-là. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on a un désordre, donc on a une synchronisation anormale de certains neurones au niveau du tronc cérébral. Okay. Et là, on se met à entendre ces bruits fantômes-là parce qu'ils sont perçus ailleurs dans le cerveau, tout simplement. Alors là, ce qu'on a cherché à faire, ce qu'on a réussi à faire, c'est on a réussi à resynchroniser ces neurones spécialisés-là au niveau du tronc cérébral pour qu'ils puissent finalement, pour essayer de stopper le signal que ces neurones-là envoient ailleurs dans le cerveau et diminuer de façon spectaculaire les acouphènes.
Pas l'enrayer complètement, mais diminuer.
Exactement. Okay. Donc
c'est permanent ou c'est juste pour un traitement occasionnel ou il faut que ce soit fait à répétition?
Ben, en fait, le traitement qui a été été fait dans cette étude-là a duré 4 semaines. Et on voit qu'après l'arrêt du traitement, là, l'effet ne dure pas nécessairement. Donc, c'est comme si on doit essentiellement faire ce traitement-là sur une base régulière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après seulement une demi-heure de formation, les patients étaient capables eux-mêmes de placer les électrodes aux bons endroits et de pouvoir par la suite procéder eux-mêmes à leur traitement. Donc, c'est quelque chose qu'ils seraient capables de faire à la maison là, sans problème et qui pourrait mener, c'est ça qui est intéressant, à un dispositif qu'on pourrait acheter, qu'on pourrait avoir à la maison. Le dispositif est déjà breveté. On est en train de...
Qui ne demande pas une quincaillerie épouvantable non plus. Là.
Non, ben c'est ça. C'est quelque chose de vraiment très, très simple. Et on aurait une solution qui, sans être parfaite, sans être totale, serait au moins, permettrait au moins de ramener un... d'améliorer la qualité de vie, parce que tous ceux qui ont participé à l'étude avaient une qualité de vie améliorée. Donc, évidemment, on le souhaite. Et s'il y a des gens qui nous écoutent à la maison qui ont une acouphène, ben on souhaite que ça va être utile pour vous éventuellement.
Une nouvelle mutation génétique liée à l'obésité morbide.
Oui, absolument. Et ça, c'est une découverte qui ouvre la porte à de nouvelles pistes de traitement. Donc, ça peut être très intéressant. Évidemment, l'obésité, c'est un problème mondial. C'est un problème qui est qualifié d'épidémique parce que ça touche une partie de la population énorme, bien entendu. Et là, avec cette étude-là, on va mettre fin au mythe que l'obésité, c'est toujours de la gloutonnerie. Là. C'est toujours parce que j'ai trop le goût de manger. C'est pas nécessairement ça. Cette étude-là nous permet d'aborder de façon plus positive, de comprendre de façon plus positive c'est quoi l'obésité et d'envisager de nouveaux traitements. Donc, c'est franchement très positif. Alors, il faut savoir que des chercheurs avaient déjà fait certains liens entre des gènes qui auraient pu être mutés, donc transformés, ou carrément que la séquence de lettres dans l'ADN n'était plus la même, essentiellement, pour que les gens comprennent bien. Et là, de pouvoir tester ces mutations-là, c'est pas toujours évident. Parce que dans ce cas-ci, on parle d'une mutation qui est récessive, pour que les gens comprennent, parce que là, vous ne vous souvenez sûrement plus de vos cours de bio de secondaire 4 ou de secondaire 5. Un gène peut être dominant ou récessif. Dominant, ça veut dire que si on l'a sur un ou deux chromosomes pour ce gène-là, on va avoir cette caractéristique-là. Quand c'est récessif, ça veut dire que ce gène-là doit nous venir de nos deux parents pour avoir cette caractéristique-là. C'est quoi, par exemple, pour les yeux bleus? Donc, pour avoir les yeux bleus, on a reçu le gène des yeux bleus de notre mère et de notre père, parce que c'est récessif. Mais les yeux bruns, par exemple, c'est dominant. Donc, si on l'a reçu d'un de nos deux parents, on va avoir les yeux bruns. Hein? On simplifie, mais c'est simple comme ça que ça... Alors, là, on a identifié une mutation qui serait récessive, donc qui doit provenir de nos deux parents pour qu'on ait cette mutation-là, et donc qu'elle s'applique dans notre corps. Mais on a étudié des enfants obèses au Pakistan. Pourquoi au Pakistan? Parce que dans une région, en fait, particulière du Pakistan, on avait déjà identifié certains liens génétiques entre l'obésité et donc certaines mutations possibles, parce que c'est un endroit où la communauté était beaucoup plus fermée, où le taux de consanguinité était plus élevé. Donc, il y avait plus de reproduction avec des membres rapprochés d'une même famille. Là.
Les traditions familiales qui se perpétuent de génération en génération.
Bon, on s'imagine. J'ai pas fouillé le cas, mais c'est la raison. Et dans ce cas-là, les chercheurs ont été capables d'identifier là, un nombre important de personnes qui avaient cette mutation-là, parce que la possibilité dans une communauté plus fermée que tu aies reçu le gène des deux parents est plus élevée, tout simplement. C'est vraiment ça le but. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a identifié, en faisant le séquençage du génome de ces individus-là, on a identifié une mutation dans un gène pour une enzyme qui s'appelle l'adénylate cyclase 3. Et lorsque cette enzyme-là ne fonctionne pas correctement, donc s'il y a une mutation sur l'ADN, ça veut dire que la protéine qui va être fabriquée à partir de cet ADN-là aura plus la même forme. Si cette protéine-là n'a plus la même forme, elle ne peut plus fonctionner de la même manière.
Évidemment.
Et dans ce cas-là, si elle ne fonctionne plus de la même manière, c'est lié à des anomalies au niveau du contrôle de l'appétit, du diabète et même de l'odorat. Donc, on peut carrément ne plus sentir. Ah, donc, oui, notre odorat ne contribue plus à nos perceptions. Et on s'imagine que lorsqu'on parle d'obésité ou lorsqu'on parle d'alimentation, si l'odorat est hors circuit, ça peut poser des problèmes. On peut l'imaginer facilement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les souris chez lesquelles on a enlevé ce gène-là pour cette même enzyme-là avaient aussi des problèmes d'obésité. Donc, c'était des souris obèses. Et en plus, elles n'avaient pas d'odorat non plus. Donc, il y a vraiment un parallèle à faire, okay, entre le modèle animal et ce qu'on observe chez l'humain. Cet effet-là, essentiellement, de cette enzyme-là, serait lié à un système qui lie l'hypothalamus et la production de différentes hormones au niveau du corps qui régule la fonction des fonctions biologiques, dont l'appétit. Donc, c'est là que cette enzyme-là agirait. Alors, donc c'est intéressant. On a identifié cette mutation-là. Ça fait donc une cible. Si on l'a identifiée, ben on va pouvoir faire un traitement ciblé contre contre les protéines qui sont anormales, et ainsi de suite. Donc, vraiment, on a une cible très précise, très spécifique qu'on peut attaquer, qu'on peut traiter. Et, évidemment, on peut imaginer qu'éventuellement, on pourrait avoir là, tenir quelque chose là qui pourrait régler une partie du problème parce que l'obésité est de causes diverses, mais l'obésité qui serait de cause génétique, ça pourrait être aidé avec une étude comme ça.
Dans quelques minutes, la suite avec Martin Carly. On se parlera d'ibuprofène et de fertilité masculine. De retour avec Martin Carly, on va parler dans notre bloc de nouvelles un peu plus brève, ibuprofène et fertilité masculine. Est-ce que ça va bien ensemble? Oui ou non? Ça, c'est de l'Advil, entre autres.
Oui, exactement. Exactement. On parle de ça. Donc, un analgésique très courant, ouais, utilisé par beaucoup de gens, bien entendu. Et souvent, lorsqu'on parle de médicaments en vente libre, on a tendance à les prendre un peu pour acquis et pas nécessairement à se méfier autant qu'on voudrait de ces médicaments-là. Tu sais, des fois, il faut faire attention et c'est jamais une mauvaise idée de parler aux pharmaciens, même lorsqu'on achète un médicament en vente libre, là, de pouvoir savoir avec d'autres traitements, d'autres médicaments qu'on prend, est-ce qu'on peut prendre celui-ci ou pas.
Ouais.
Tu sais, le pharmacien est là vraiment pour nous donner un coup de main puis éviter des problèmes. Mais dans ce cas-ci, je vous parle de cette manchette-là parce que c'est une manchette qui a fait un certain bruit il y a quand même quelques jours à peine. C'est paru cette semaine. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle d'une manchette comme ça, on imagine tout de suite les titreurs des différents médias de dire en prenant de l'ibuprofène, tu ne peux plus avoir d'enfant, c'est un homme. Il faut se calmer un peu le pompon, mais quand même, regardez ça avec un œil intéressé. Le fait de prendre sur une base régulière cet analgésique, donc l'ibuprofène qu'on prend tous ou presque de façon épisodique, bien, ouais, entendu, pourrait amener un déséquilibre au niveau de la production d'hormones masculines, ce qui pourrait amener un désordre qui est associé à l'infertilité dans certains cas, mais à un plus vieil âge essentiellement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 14 jeunes hommes qui ont pris la dose maximale selon les posologies mentionnées sur les emballages. Donc, ils ont pris la dose maximale d'ibuprofène pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Et on a voulu comparer leur niveau d'hormones avec un autre groupe qui a subi un traitement, mais en prenant un placebo. Okay. Donc, ils étaient dans les mêmes conditions, mais eux, ils prenaient essentiellement des pilules de sucre ou peu importe. Eh bien, après 14 jours, on a observé une diminution du rapport testostérone et hormones lutéinisantes. Ça, c'est l'hormone chez l'homme qui stimule la production de testostérone. Et lorsque ce rapport-là, de ces deux hormones-là, est diminué, donc lorsqu'il y a un déséquilibre comme ça, c'est ce qu'on appelle une condition qu'on appelle l'hypogonadisme compensé. Hypo, il y en a moins. Oui. Gonadisme, les gonades, donc qui produisent les hormones. Donc, hypogonadisme compensé. Et ça, c'est une condition qui survient plus tard dans la vie des hommes et qui peut être liée à l'infertilité et à des problèmes cardiaques. Mais là, on a des jeunes hommes ici qui se retrouvent avec un déséquilibre hormonal qui rappelle cette condition-là qui peut plus tard dans la vie. Donc, c'est simplement une mise en garde, un petit drapeau que les chercheurs soulève parce que les chercheurs essentiellement soulèvent que qu'une telle observation devrait amener les chercheurs effectivement à créer plus d'études ou à faire plus d'études pour étudier les effets potentiellement négatifs au niveau de la production hormonale causée par l'ibuprofène par exemple, mais évidemment ça pourrait s'appliquer à n'importe quel autre médicament qu'on a tendance à prendre pour acquis. On pense aussi à l'acétaminophène ou l'aspirine ou ainsi de suite là. Donc Donc voilà, donc un petit coucou mise comme ça de certains chercheurs que je trouvais intéressant.
L'ADN pour sauver les rhinocéros.
Oui, lorsqu'on pense à l'ADN, ça c'est une technique qui a évidemment révolutionné toutes les sciences judiciaires. Hein. Depuis qu'on est capable maintenant de faire des prélèvements de différents tissus organiques sur une scène de crime, pour par la suite essayer de faire une correspondance entre un criminel potentiel et sa présence donc sur une scène de crime, ben ça a carrément révolutionné. On a il y a plein d'affaires qui ont été résolues comme ça parce mm-hmm. qu'enfin on avait une technique. Ben là on pourrait penser que ça s'applique juste aux humains. Eh bien non. Et ça je trouvais ça très intéressant aussi de vous en parler. Il y a un programme présentement qui permet d'utiliser l'ADN des rhinocéros abattus par des braconniers pour être capable d'accuser aux criminels ces braconniers, carrément les mettre en prison et les mettre hors d'état de nuire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont comparer le profil d'ADN d'items confisqués. On peut parler de cornes de rhinocéros, de taches de sang sur différents objets confisqués comme ça, qui étaient illégaux. On va comparer l'ADN de ces objets-là à des ADN contenus dans une grosse banque de données qui a été mise sur pied en 2010. Cette banque de données-là nous donne l'ADN de carcasses qui ont été identifiées comme étant des bêtes victimes de braconniers. Donc là, on peut faire le lien, de dire, OK, toi, je viens de confisquer chez toi une corne de rhinocéros et l'ADN de ce rhinocéros-là correspond à la carcasse qu'on a trouvée, mettons, okay. en 2014, à tel endroit, puis il avait été abattu dans telle circonstance. Donc, en faisant ce rapprochement-là grâce à l'ADN de la victime dans ce cas-ci, on est capable de mettre un braconnier sur une scène de crime et de dire, tu étais probablement responsable de l'abattage de cette bête-là.
Moi, tout le monde t'a acheté un produit dérivé, si c'est pas drôle.
Voilà, exactement. Et imagine, Mathieu, grâce à cette technique-là, imaginez, la banque de données existe juste depuis 2010, mais grâce à cette banque de données-là, on a réussi à fournir de la preuve critique dans 120 cas criminels. Et je le rappelle que les braconniers peuvent être... les braconniers reconnus coupables, peuvent faire jusqu'à 29 ans de prison s'ils sont pris. Donc, dans un cas comme ça, c'est une excellente nouvelle, l'ADN au service de la conservation de la faune.
Et une petite dernière, Martin Carly, découverte du plus long nombre premier.
Oui. Tu te souviens de c'est quoi un nombre premier?
Vas-y donc, tu te rappelles?
Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par 1. Donc, on peut pas le diviser par d'autres choses. Par exemple, 3, c'est un nombre premier. On peut juste le diviser par 3 ou par 1, c'est tout. Mais 4 n'est pas un nombre premier parce qu'on peut le diviser par 4, par 2, exactement, ou par 1. Donc ça, c'est pas un nombre premier. Alors, oui, le plus long nombre premier a été identifié.
C'est souvent les chiffres impairs, autrement dit?
Oui, ben dans certains cas, mais pas tous, parce que, tu sais, 81, c'est un chiffre impair, mais ça se divise par 9.
C'est vrai.
Donc, ça s'applique pas à tous les chiffres impairs. Mais dans ce cas-ci...
Réviser ma matière.
Je voulais te laisser là-dessus. Hein? Là, tu dis, hey, on peut-tu...
Viens me faire pogner, là. Hein?
On peut-tu passer à la pause plus vite? Eh bien, dans ce cas-ci, on parle d'un nombre premier qui a 23 millions de chiffres. Imagine, 23 millions de chiffres. Donc, on est loin de juste 3 ou juste 1. Hein?
Ça commence par quoi et ça finit par quoi?
Une bonne question, ça. En fait, c'est un nombre qui détient maintenant le record. Ce nombre-là a été baptisé M7723297. Pourquoi? Parce que c'est le M, c'est parce que c'est le nom d'un moine français qui s'est intéressé au nombre premier il y a 350 ans, il s'appelait Mersenne. Et 7723297, c'est le nombre de fois qu'il faut multiplier 2 par 2. Donc, il faut que tu multiplies 2 par 2 par 2 par 2, 77 millions de fois, là, 77,232,917 fois par 2. Et puis, tu soustrais 1 pour obtenir ce nombre premier-là, le nombre record. Là, vous allez me dire, à quoi ça sert? Strictement à rien. On est vraiment dans la découverte de trouver quelque chose de nouveau. Mais quand même, je vous laisse sur une utilité des nombres premiers qui est quand même très, très importante et intéressante. Les nombres premiers ont une place importante en cryptographie. Et notamment, c'est grâce aux nombres premiers qu'on peut rendre l'Internet plus sécuritaire.
Okay.
Donc, ça nous permet de créer du codage qui rend notre observation ou notre exploration de la toile comme ça plus sécuritaire. Donc, les nombres premiers sont intéressants. Celui-là, il risque de pas servir, mais au moins, on l'a trouvé.
Martin Carly, merci beaucoup à toi.
Bonne semaine.
Bonne semaine, salut.